Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus veut te rendre fort. Et ce soir, nous allons continuer cette série qui s'intitule « De plus en plus fort ». Nous avons vu la dernière fois avec le pasteur Bruno « De plus en plus fort dans la foi ». Et ce soir, nous allons voir « De plus en plus fort dans son caractère ». De plus en plus fort dans son caractère. Dieu veut te rendre fort dans ton caractère. C'est une bonne nouvelle, ça. Il veut te fortifier dans ton être intérieur. Qui a envie d'être plus fort dans son caractère? Amen. Vous savez, le caractère, c'est le fondement sur lequel on bâtit notre vie. Le Seigneur est plus intéressé par notre caractère que par notre confort, même s'il veut nous bénir. Mais je vous garantis, on ne va pas emmener au ciel avec nous la grosse voiture, la grande maison ou tout ce que tu as. Mais le caractère, si, tu vas au ciel avec. Donc c'est important d'investir sur les choses qui ont de la valeur éternelle. Vous savez, le caractère, il est assez difficile de décrire le caractère ou de donner une définition. Un dictionnaire dit que c'est l'ensemble des signes distinctifs d'une personne. Le caractère est composé de plusieurs caractéristiques, plusieurs traits de caractère, si vous préférez. Le caractère, lorsqu'on parle de caractère, on peut parler de la discipline, on peut parler du courage, on peut parler de la loyauté, on peut parler de la fidélité, on peut parler de l'endurance, etc., etc., etc. Toutes ces choses composent notre caractère. Amen. Mais le trait de caractère que nous allons voir ensemble ce soir, c'est tout simplement un des traits de caractère qui est un des plus importants lorsqu'on développe une relation. On pourrait dire que c'est l'honnêteté ou l'intégrité ou apprendre à être vrai. Ou sinon, si tu préfères, apprendre à dire la vérité. On va voir que apprendre à dire la vérité, apprendre à être de plus en plus vrai, c'est ça qui rend notre caractère de plus en plus fort aussi. Il y a plein de traits de caractère qui composent le caractère, mais ce trait-là, on va le cibler ensemble ce soir, parce que c'est une des qualités les plus importantes. Je crois que si on demande à une femme qu'est-ce qu'elle attend de son mari, ou à un mari, qu'est-ce qu'il attend de sa femme, un des traits de caractère qui arrivera en premier serait celui-là. Qu'il soit honnête, qu'il soit fidèle, qu'il ou elle soit intègre. Ce qu'on demande en général à des responsables, à des leaders, chrétiens ou pas, ce qu'en général le peuple demande en priorité, c'est l'honnêteté. C'est l'intégrité. Oui ou non? Et donc l'honnêteté, apprendre à dire la vérité, est un trait de caractère très 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 important. Et vous allez voir que vous et moi, si nous nous engageons à être de plus en plus vrais, si nous nous engageons à dire de plus en plus la vérité, nous allons être de plus en plus forts dans notre caractère. Et c'est ce que Dieu veut pour vous et moi. Mais avant de mettre l'emphase sur l'importance de dire la vérité, il nous faut comprendre les dégâts que cause le mensonge. Il nous faut comprendre qu'une vie de mensonge est une vie de misère. Le mensonge crée des dégâts profonds dans l'âme. Et donc il est important pour nous de comprendre cela ce soir. Vous connaissez pour certains d'entre vous l'histoire dans le livre des Actes au chapitre 5 d'Ananias et Saphira. Et on va le lire ensemble. Le contexte de cette histoire, c'est l'Église grandit, le Saint-Esprit au milieu de son peuple. La Bible dit qu'il y avait une grande communion entre frères et sœurs. Il demeurait dans l'enseignement des apôtres, dans le partage des pains. Le Saint-Esprit conduisait de plus en plus de monde dans la foi. C'était tout simplement superbe. L'Église, comme on dit, fly. Elle vole, il n'y a pas vraiment de problème. Elle domine, elle influence la société, elle a le respect de la société. Elle touche de plus en plus la communauté. Le Saint-Esprit amène une multitude à croire en Jésus. Waouh! Et lorsqu'il y avait des frères et sœurs dans la pauvreté, le Saint-Esprit était tellement là que les cœurs étaient touchés par une grande générosité. Et au chapitre 4, dans le livre des Actes, la Bible dit que dans cette église, il n'y avait pas de pauvres. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, c'est-à-dire pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'ils avaient besoin. Incroyable! C'était le potentiel de l'époque. L'Église des Actes a leur potentiel aussi. Leur façon de faire, c'était réellement ceux qui avaient plus venaient donner à l'Église leur surplus et ils faisaient confiance aux responsables d'Église pour que cela distribue à ceux qui n'ont pas. Ils déposaient au pied des apôtres. Ils ne se donnaient pas uniquement les uns les autres, ils déposaient ce qu'ils avaient en plus. Et les apôtres redistribuaient à ceux qui n'avaient pas. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Joseph, ici Barnabas, c'était un homme d'affaires en réalité lorsqu'on étudie la parole de Dieu. C'était un businessman, il était riche. Il a vendu un terrain parce qu'il avait à cœur les gens qui étaient dans le besoin. Ça le fatiguait de voir les frères et sœurs galérer, tirer la langue. Il s'est dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Je vais vendre un terrain que j'ai. J'ai récupéré les sous. Je vais tout donner aux apôtres. Je leur fais confiance pour qu'ils puissent bénir les pauvres dans l'église parce que je reconnais ce que Dieu a fait pour moi et je veux aussi maintenant faire un acte de générosité comme en semant cet acte d'amour dans l'église. Waouh ! Et donc l'église grandit, tout le monde est touché de cette façon comme Barnabas, mais dans Actes au chapitre 5, il y a un couple qui va faire quelque chose de dangereux. Et on va le lire ensemble et après on va le commenter. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11, il est écrit « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre ton cœur dans ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Le gars est mort sur place. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ben, je veux. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Je veux qu'il y ait de quoi gagner saisissement. Ici, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Essayons de bien comprendre ce qui se passe. Saphira et Ananias ont aussi des terrains. Ils décident, comme Barnabas, d'en vendre un et de prendre soin des pauvres. C'est déjà bien de vouloir prendre, de vendre un terrain pour prendre soin des pauvres. On peut se dire, ben déjà, de faire ce choix, c'est bien. Ensuite, on peut se dire, mais à côté de cela, il donne donc une partie pour prendre soin des pauvres, il retient une partie, on peut se dire, mais c'est déjà bien, puisqu'il garde une partie, mais il donne une partie. Oui ou non ? Il tue personne. Ils injurent personne. On pourrait dire, mais il y a plus grave quand même. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils retiennent une partie du prix. Est-ce qu'ils avaient le droit de retenir une partie du prix ? Oui ! C'est ce que Pierre dit. Il dit, le prix était à votre disposition. Vous auriez pu, je ne sais pas, vendre le terrain à 100 000 euros et dire, écoute, sur les 100 000 euros, on a à cœur de donner 50 000 euros, on a gardé 50 000 pour vous, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème, c'est qu'ils l'ont vendu à 100 000 euros, un exemple, ils ont donné 80 000 euros, et quand Pierre dit, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain, ils disent, oui, c'est à ce prix-là. Pour passer comme Barnabas, des gens très généreux et qui donnent tout, et en réalité, ils ont menti. Ils ont retenu une partie. Et la sanction est terrible. Les deux meurent à 3 heures d'intervalle. La Bible dit qu'il y a une grande crainte qui a saisi l'Église. Je veux qu'après cet événement, dans les groupes de maison, avant la prière, tu as vu ce qui s'est passé, purée, t'es la dernière fois à l'Église dimanche, ce qui s'est passé, tel couple. Wow! On dit, mais Dieu est sensible quand même. Donc ici, ils ont menti. Il n'y a pas mort d'homme. Ils ont menti. Et ça, malheureusement, leur a coûté leur propre vie. Dieu déteste le mensonge. Il le hait. Proverbe 8, verset 7 nous dit ceci. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Dieu a en horreur le mensonge. Proverbe 6, verset 16 nous dit, il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, une. Les mains qui font couler le sang innocent, donc le meurtre, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, et le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre ses frères. Parmi les 6 choses, 2 fois Dieu répète le mensonge. Parmi les 6 choses que Dieu est, 2 fois il répète la même chose. C'est pour bien nous faire comprendre qu'il n'aime pas le mensonge. Le mensonge détruit, le mensonge est pourri. Et Dieu n'aime pas le mensonge. Le mensonge fait beaucoup de dégâts. Je pense que peut-être que certains ici parmi nous, sûrement, peut-être vous est-il déjà arrivé d'être trahi par quelqu'un qui vous a menti. C'est dur. Quand dans un couple, il y a une trahison par un mensonge, ça crée beaucoup de dégâts dans l'âme. Lorsque tu penses que l'autre dit vrai et que tu découvres que c'est faux, les dégâts peuvent être très profonds. Pour certains, ça prend des semaines, des mois, voire des années pour s'en remettre. Quand des parents mentent aux enfants et que les enfants découvrent, ça peut laisser une trace que seul Dieu peut enlever. Quand un mari ment à sa femme ou la femme à son mari, et qu'ils découvrent, il y a une peine et une douleur intense qui frappe le cœur. Le mensonge produit des dégâts désastreux. Et Dieu en horreur le mensonge. La conséquence, souvent, lorsque dans la relation, il y a le mensonge qui arrive, c'est que la confiance est brisée. Et parfois, celui ou celle qui était victime d'un mensonge, ça peut lui prendre des mois, voire des années, pour apprendre à refaire confiance. Et une relation ne peut pas être solide sans la confiance. Mais le mensonge vient détruire la confiance. Et ça va être une partie pour dimanche. Comment retrouver la confiance? Comment retrouver cette assurance? Mais ce soir, on va matraquer le mensonge par la parole de Dieu qui est comme un marteau qui brise le roc, qui est comme une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, séparant esprit et âme, jointure et moelle, jugeant les pensées et les sentiments des cœurs. Parce que le mensonge détruit les relations. Que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le business, c'est pas bon de mentir dans le business, par exemple. Le mensonge fait mal. Éphésiens 4, verset 25 nous dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge, nous dit la parole de Dieu. Le mensonge fait mal, ça te détruit, c'est pourri, ça te détruit toi, moi, ça te détruit les relations. Et Dieu est clair, il dit renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Pour être de plus en plus fort dans son caractère, il faut que vous et moi, nous puissions désirer dire la vérité à son prochain de plus en plus. C'est très important. Parce qu'on va voir que dire la vérité à son prochain, c'est essentiel pour établir une relation de confiance. Être vrai avec son mari, être vrai avec sa femme, être vrai dans l'équipe, être vrai dans le travail. Être vrai et dire la vérité, c'est ça qui établit des relations fortes. Pourquoi donc il est-il si important pour vous et moi de dire la vérité? Premier point, parce que nous ne devons pas nous tromper d'audience. L'apôtre Pierre dit à Ananias et Saphira, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Trop souvent, le problème, c'est que vous et moi, lorsque nous mentons, on pense uniquement à l'autre. Lorsque nous péchons d'abord contre Dieu. C'est lui, l'audience. Devant laquelle nous devons nous tenir à chaque instant. Nous ne devons jamais oublier que nous vivons avant tout devant une seule audience, le Seigneur. Il est ton premier auditeur. Que tu sois chez toi tout seul, que tu sois dans ton travail tout seul, dans ton bureau, que tu sois dans la fée noire, que tu sois quelque part où tu penses que personne ne te voit. Tu te trompes. Dieu te voit. Quand tu dis quelque chose et tu penses qu'il n'y a que lui, que elle ou lui qui t'entend, tu te trompes. Dieu est notre audience. Et il entend. Le psaume 139, verset 7, David savait cela. Et David disait, « Où aller loin de toi ? Où fuir loin de ton regard ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais tu es là. » N'oublie jamais que ton premier auditeur, c'est Dieu. Ne crois pas lorsque tu fais quelque chose en cachette qu'il ne voit pas. Je comprends qu'on ne dit pas trop amen, mais... Est-ce que vous avez envie de réellement avoir une vie qui grandit dans la vérité? C'est vrai? Vous mentez pas? Jérémie 7, verset 28 nous dit, « Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Que ce ne soit pas ainsi du peuple de Dieu. » Le premier point pourquoi on doit dire la vérité, parce qu'il ne faut jamais oublier que Dieu est notre premier auditeur. Le deuxième point, c'est parce que mentir détruit. C'est pourri. Si je dis ici, qui a déjà été victime d'un mensonge, d'une trahison qui l'a fait mal? Levez la main. Levez bien haut la main, sans honte. Tu es humain. Si je dis, qui a déjà menti? Si tu ne lèves pas la main, je prierai pour le mensonge. Le fait est que si tu connais la douleur du mensonge, alors ne produis pas cette douleur chez l'autre. Proverbe 20, verset 17 nous dit « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. » Le mensonge casse les dents. Je ne sais pas si toi tu aimes aller au dentiste, mais c'est mal aller au dentiste. Béni soit le Seigneur pour les dentistes. Mais qui prend la fraise... Carrie, prend le mensonge casse les dents. Remplis ta bouche de gravier. C'est-à-dire, au départ, ça paraît bon, mais après, ça devient douloureux. Ça produit la douleur. Pourquoi dire la vérité? Parce que c'est la volonté de Dieu. Tout simplement. Zacharie 8, 16. Voici ce que vous devez faire. Regarde ton voisin et dis-lui, voici ce que tu dois faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux et une justice qui engendre la paix. Pas compliqué. Pas dire ce que tu dois faire, c'est vraiment venir à l'église tout le temps. Même si c'est bien, viens à l'église tout le temps. Mais si on vient à l'église tout le temps, on prie tout le temps et on ment tout le temps, il y a un souci. Dis voilà ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Dis la vérité à ton mari. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à tes enfants. Dis la vérité, bec à linette. Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus est le chemin. Il est quoi après? La vérité. L'adoration est un style de vie qui marche dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est offrir un style de vie d'adoration à Dieu. Adorer, c'est pas chanter uniquement ici. Ça, c'est une partie. Adorer, c'est marcher aussi dans la vérité. C'est ça l'adoration. Pourquoi il est important de dire la vérité? Parce qu'il y a de la puissance dans la vérité. Il y a de la puissance, la vérité en elle-même renferme de la puissance. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous avons que pour la vérité. » Parce que pour que le faible dise « Je suis fort », il faut qu'il marche dans la vérité. Parce qu'on n'a pas de puissance contre la vérité, mais on a de la puissance et de la force pour la vérité. Lorsque toi et moi on choisit d'être vrai, alors on se place du côté de la force, de la puissance. Il n'y a pas de puissance, nous dit la parole de Dieu, contre la vérité. Il y en a pour la vérité. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que la vérité en elle-même est une puissance éternelle. Elle ne s'érode pas avec le temps. Ce qui a été vrai il y a 2000 ans est vrai aujourd'hui. La vérité est comme le soleil. Même s'il a des millions d'années, il apporte toujours la lumière nouvelle chaque jour. C'est ça la vérité. C'est pareil. Il n'y a pas de vieille vérité. La vérité, c'est la vérité. Elle ne vieillit pas avec le temps. Elle triomphe du temps. Elle triomphe du test du temps. Elle ne s'érode pas avec le temps. La vérité tient ferme. Les vérités qu'il y a 2000 ans sont aussi fraîches aujourd'hui pour toi et pour moi. Pourquoi il y a la puissance dans la vérité? Parce que c'est la vérité qui rend libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand il y a dans une équipe, quand il y a dans les relations une certaine liberté, cela signifie qu'il y a une bonne mesure de vérité. Quand dans une équipe ou dans un couple, dans des relations, les gens se cachent et il y a un manque de liberté, on a peur, hein, ni crainte, la peur. C'est qu'il y a un manque de vérité. Parce que plus tu es vrai, plus tu es libre. Il y a la puissance pour la vérité. La Bible dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais c'est pour ça que l'Esprit du Seigneur est appelé aussi l'Esprit de vérité. Si tu veux avoir un couple libre et fort dans sa relation, sois vrai. Grandis en tant que mari ou en tant qu'épouse, en tant que parent, dans la vérité. Sois libre. C'est ce que Dieu veut pour vous et moi. Pourquoi la vérité est-elle si puissante? Parce que la vérité attire la justice. Parce que la vérité attire la paix. Celui qui marche dans la vérité attire la justice. Celui qui marche dans la vérité engendre la paix. La vérité de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit. Lorsque la parole de Dieu dit « Mais la vérité a trébuché sur la place publique et la justice ne peut pas approcher. » Mais si la vérité tient ferme, tient debout, la justice va approcher. Et plus tu te tiens vrai, même si on t'accuse à tort, plus Dieu lui-même fera justice au bon moment, parce qu'il est un juste juge. Mais il a besoin que toi et moi nous tenons pour la vérité, parce que l'Église est la colonne de la vérité. La Bible dit que l'Église, toi et moi, nous sommes l'Église. Nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Parce que la vérité récompense toujours. Parce que la vérité, c'est la matière avec laquelle nous construisons un solide caractère. Parce que la vérité, c'est ça dont nous avons besoin pour avoir des relations bâties sur la confiance. La confiance est le fondement de relations solides. Mais la vérité est le fondement de la confiance. La vérité éclaire, la vérité sanctifie. C'est la vérité qui rend la confiance possible. Sois vrai. La vérité, pour celui et celle qui se tient pour la vérité, il devient un rempart, il devient un appui. Celui ou celle qui est vrai, les gens peuvent compter sur lui, peuvent lui faire confiance. Ou sur elle. Quand on a chanté ce chant tout à l'heure, mon seul abri c'est toi, mon appui c'est toi. Pourquoi mon appui c'est lui? Parce qu'il est vrai. Parce que ce qu'il a dit de toi, c'est vrai. C'est parce qu'il est vrai que tu peux le faire confiance. Quand il dit que tu es une créature merveilleuse, c'est vrai. Quand il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi, c'est vrai. Tu peux le faire confiance. Quand il dit que c'est lui qui guérit, c'est vrai. Quand il dit que c'est lui qui pourvoit, c'est vrai. Quand il dit que c'est lui qui sauve, c'est vrai. Quand il dit que c'est lui qui libère, c'est vrai. C'est la vérité. Il est la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il y en a pour la vérité. Sa parole est la vérité. Et si elle est vraie, toi et moi, nous pouvons nous appuyer dessus pour nos propres vies. C'est pour ça qu'il est important de dire la vérité. Mais pour terminer, comment de manière pratique apprendre à grandir dans notre façon de dire la vérité? Qui aimerait bien déraciner toute trace de mensonge en lui? Amen. Alors pour ça, il nous faut comprendre que parfois nous mentons de façon peut-être inconsciente. Par exemple, lorsqu'on exagère. Tu es parti comme un... Mon papa, trop cool. Tu es parti à la chasse? Oui. Tu as tué un lapin? Oui. Quelle grandeur, comme ça. Ah, tu dis, il n'existe pas de lapin comme ça. Ah, excuse-moi, m'oublie de mettre ma main dessous. Je vous détends un peu. Comment dire la vérité de manière pratique? Arrête de tordre la vérité. Arrête uniquement de dire ce qui t'arrange et de ne pas dire ce qui dérange. Par exemple, comment de manière pratique dire la vérité de plus en plus? Arrête de présumer. Arrête de tomber dans la présomption, c'est-à-dire de dire quelque chose comme si c'était vrai alors que tu ne connais pas la situation. Hey, tu as entendu, un tel a fait ça? Ben oui alors. Mais en fin de compte, tu ne connais pas du tout toi la situation. Un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Freedom. Ce n'est pas la vraie freedom. La vraie liberté. Que Dieu les bénisse, amen. Donc comment dire la vérité de manière pratique? Arrête de dire uniquement ce qui t'arrange, arrête de présumer et surtout, essaye d'être de plus en plus précis dans ce que tu dis. Par exemple, tu vas chez des amis à Saint-Denis et tu es un peu en retard, ils t'appellent, tu es sur la route à Saint-Gilles. Et tu dis, écoute, ben, là on est environ là, à la possession. Dans 5 minutes, on est là. On a tous fait ça. Je veux dire, on a tous fait ça. Si on est vrai. Donc je vous dis qu'on peut progresser pour dire la vérité, là, on peut vraiment un paquet. Je parle pas de gros mensonges, même s'il y en a. Et là, il faut vraiment faire attention et se détruire. Mais je parle d'apprendre à dire la vérité avec plus de précision. D'être plus précis dans ce que tu dis. Ce que Dieu veut. Il y a de la puissance dans la vérité. Comment grandir dans son caractère, de foi en foi, de gloire en gloire, de force en force. Pour aller de force en force, apprends à dire la vérité de manière plus précise. Je connais un précieux moniteur de sport, tu vois. À chaque fois, il te dit, tu vas arriver là. Dans 10 minutes. Ouais, on est arrivé là, c'est encore loin. Non, après le virage. Il y a une centaine de virages comme ça. Ah, mon ami Fabrice. Donc frères et sœurs, c'était simple ce soir, mais je crois profond et important. Si toi et moi, nous voulons grandir dans notre caractère, une façon simple d'avoir un caractère plus solide, c'est d'apprendre à dire la vérité. Les uns envers les autres. Et de grandir dans notre façon de dire la vérité pour construire des relations plus fortes, plus libres. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Le groupe de louanges de venir.